L'étymologie n'est pas ma matière favorite, car je préfère la poésie quand elle trouve d'autres chemins que celui de permettre de s'amuser à vouloir fournir des preuves de ceci ou de cela. Mais aujourd'hui, je me sens contraint de convoquer l'étymologie à propos du mot utilisé deux fois dans le pourtant très bref récit de l'évangile de Marc, qui a été lu par Nicolas, du mot et de la notion d'autorité. Problématique que Marc plante dès le début de son évangile et qui donne le ton du ministère de Jésus qui donc est en train de commencer. Et nous allons d'abord convoquer l'étymologie grecque exousia, un mot qui se compose d'une part de la particule ek, qui a donné ex en français, qui donc ne signifie pas celui qui était avant ou celle, mais celui qui est mis dehors, et qui signifie donc en dehors de, et qui se compose d'autre part d'une forme du verbe eimi, qui en grec signifie être. Ce qui nous renvoie poétiquement à deux possibilités. L'autorité, c'est ce qui provient d'ré, parce que ça reste quand même un peu poétique, ce qui proviendrait de l'en dehors de l'être d'une personne, ou et l'autorité, ce serait ce qui sort de l'être de la personne. Alors moi, je vais garder les deux. Pourquoi ? Les distinctions entre l'autorité d'un côté et le pouvoir et la puissance, vous les connaissez. Le pouvoir, on le répète constamment, est relié à la force et à la contrainte. Mais l'autorité n'aurait justement pas besoin de contrainte, puisqu'elle le serait acceptée, puisqu'elle serait reconnue. Reconnue donc, si on suit la voie poético-étymologique grecque, grâce à une sensation, à la sensation ou la croyance que cette autorité est conférée par quelqu'un d'autre que la personne censé avoir de l'autorité, quelqu'un d'autre d'incontestable, par exemple un dieu. Mais il se peut aussi que cet autre de la personne ayant autorité soit une instance que l'on jugerait peut-être encore plus incontestable qu'un dieu, parce que ce serait soi-même conférant l'onction d'autorité sur une personne, soi-même autorisant la personne à ce que moi je la suive et lui obéisse. Mais cet autre de la personne qui a autorité pourrait être aussi plein d'autres. En fait, une opinion jugée générale dont nous aurions perçu la rumeur et l'onction. Prenons nos exemples. Il aurait été difficile, après qu'ils en aient bavé ou qu'ils aient été tués pour leur cause, de n'avoir pas reconnu à un moment donné l'autorité, par exemple donc, de Nelson Mandela ou de Martin Luther King. Tous deux, en quelque sorte, ayant été élus par une onction totalement non démocratique et pourtant quasi général. Un peu comme dans notre texte de Marc, cette renommée de Jésus qui se répand comme une traînée de poudre après cet événement de Capharnaüm, après que Jésus avait exfiltré un esprit impur d'un anonyme qui était dans la synagogue. Dans les trois cas, qu'elle donne la sensation d'avoir été produite par un Dieu, par soi-même, s'y soumettant, ou par une consistante rumeur, l'autorité semble être cette substance diffuse, cette espèce d'aura de la personne, une sorte d'esprit qui, après être entré en elle, de cette personne, sort de celle-ci et vous enveloppe pour que vous pensiez, pour que vous disiez « oui ». En latin, que vous obéissiez. C'est dire « oui ». Mais pour faire un lien avec une actualité à la fois extrêmement pénible, mais aussi avec un certain regard hautement réjouissante, qui est celle de la levée du tabou de l'inceste, il faut préciser que l'autorité n'a pas à être considérée comme la notion gentille du couple autorité et pouvoir. Le pouvoir qui serait le méchant pendant que l'autorité serait la gentille. À l'occasion des révélations actuelles, on s'aperçoit et on est invité à comprendre que l'autorité conférée, reconnue, est aussi la source d'épouvantables processus de domination sans qu'aucune contrainte physique, ni utilisation de la coercition, ni même aucun chantage ne soit exercé. De toute façon, tout dictateur a appris dans son manuel, où il a appris sur le tas, tout dictateur sait que son pouvoir, s'il n'a pas en plus l'autorité, même protégé par les moyens les plus terrifiants, que son pouvoir ne pourra pas tenir longtemps. Il lui faut, selon l'étymologie grecque, il lui faut cet extraordinaire qui le maintiendra longtemps, qui le maintiendra, je répète, à cause de l'enregistrement, et je vais couper cette phrase d'ailleurs, cet extraordinaire qui va le maintenir longtemps avant que lui aussi, évidemment, disparaisse. Alors on va continuer. Il n'y a pas que les Grecs dans la vie. Il y a aussi les Romains. L'étymologie latine, qui a donné le mot français d'autorité, est bien plus intéressante directement. Vous l'entendez dans la sonorité même, c'est la notion d'auteur qui est ici convoquée. L'autorité d'une personne proviendrait simplement de la sensation que cette personne est véritablement l'auteur de ce qu'elle dit, de ce qu'elle raconte, qu'elle n'est pas qu'un intermédiaire, qu'elle n'est pas qu'un relais d'opinion, ou qu'elle n'est simplement pas un bonimenteur. Et cette sensation qui est produite, quelle est-elle ? Eh bien, c'est la sensation d'incarnation d'une parole, l'incarnation d'une idée ou d'une recommandation dans cette personne qui va pousser à lui faire confiance, à la croire et à la suivre, car elle-même non seulement semble y croire, mais elle donne la sensation de représenter dans sa chair même cette parole, cette idée, cette recommandation. C'est sans doute une vertigineuse sensation d'autorité ayant été ressentie chez les premiers disciples de Jésus qui a fini par conduire bien plus tard l'Église à parler à propos de ce Jésus, même à inventer carrément, en matière religieuse, le concept d'incarnation. Ce Jésus a été perçu comme la parole devenue chair et donc devenant autorité, l'autorité la plus pure. Le christianisme, dans un certain sens, serait donc la révélation parfaite de l'autorité, à laquelle, finalement, on ne peut que se soumettre Et le paradoxe de cette autorité est qu'on s'y soumettrait volontairement. Bref, je voulais déjà aujourd'hui vous donner quelques pistes, vous proposer quelques pistes pour vous amener vous-même à défricher un peu plus, à construire votre rapport à l'autorité un peu plus, l'autorité que vous pourriez conférer à Dieu, à Jésus, à la littérature biblique, au personnel religieux ou hiérarchique, à vous-même, à ceux et celles qui vous entourent, et peut-être j'aurais essayé de vous encourager à vous interroger sur ce qui vous pousse, ou vous a poussé à dire oui, pas uniquement à l'occasion d'un mariage, bien sûr. Et maintenant, et beaucoup plus brièvement, je vais vous dire les deux choses que j'aime le plus dans ce petit récit de Marc. La première des choses est l'utilisation d'un procédé en miroir. Je ne sais pas si c'est perceptible à l'oreille, mais c'est carrément évident à la lecture silencieuse. L'esprit impur sort d'un homme après que l'autorité est sortie de Jésus pour le pousser à sortir. Et la renommée de cette autorité, ensuite, sort de Capharnaüm et va se répandre dans toute la Galilée. Dès le début de la description du ministère de Jésus, tout est annoncé. Il s'agira d'une lutte entre deux autorités, celle qui vient de sortir et qui libère, contre celle qui ne veut pas sortir, ni être révélée à la lumière, et qui préfère rester dans l'ombre, qui préfère posséder et envahir. Dans le psaume 66, dans la deuxième strophe, il y avait ce balancement entre l'autorité de Dieu et l'autorité perverse. L'histoire de l'Église montrera que cette lutte entre les deux autorités n'a jamais cessé, vraiment. Que cette tension a toujours existé, jusqu'à ce que, dans les temps très récents, l'Église, en devoir de se réinventer, constate qu'elle perd à la fois du pouvoir et aussi de l'autorité. Et l'autre chose que j'aime beaucoup dans ce récit, c'est que l'autorité de Jésus ne consiste pas d'abord, comme on peut l'imaginer, avec une lecture rapide, ne consiste pas d'abord à faire accepter à cet esprit impur de sortir, mais d'abord à lui faire accepter de se taire. Et c'est vrai qu'il a été très bavard, d'abord cet esprit, en essayant, vous l'avez entendu, d'amadouer Jésus avec une très belle confession de foi. « Tais-toi !» dit Jésus, « Tais-toi !» Ma prière, donc, serait donc qu'enfin la véritable autorité surgisse et fasse taire tous les commentaires inutiles, fasse taire tous les haters et tous les trolls, fasse taire toutes les rumeurs, fasse taire toutes ces opinions de masse qui se croient singulières, fasse taire toute forme de publicité, tiens, et pour l'éternité, fasse taire toutes les perfidies sur des tiers qu'on aime bien, il faut l'avouer, s'échanger entre nous, alors sans doute pas vous, fasse taire la langue de bois, fasse taire toutes ces paroles lénifiantes et condescendantes, et qu'elle laisse la place à ce qui doit vraiment être dit ou être révélé. Elle n'imposera pas le silence, comme le font certains pouvoirs, elle laissera aussi, non seulement ce qui doit être dit ou révélé, mais aussi elle laissera peut-être la poésie, peut-être l'humour. Mais encore plus fort que cette autorité que je convoque dans cette prière finale, fasse taire en moi-même toute autre voix que la sienne, comme le dit si bien un cantique. Alors, pour incarner un tant soit peu ce dont je parle, je vais donc conclure cette prédication en me taisant.